Donc on va pouvoir passer au débat. Donc il y a normalement des camarades qui ont des micros qui pourront passer dans la salle et vous donner la parole. Vous pouvez lever la main pour demander la parole. Si vous intervenez au nom d'une organisation, ben, présentez-vous et on demande qu'il n'y ait pas plus d'une intervention par organisation. Et enfin, essayez de faire des interventions pas trop longues, de 2-3 minutes si possible. Voilà, alors qui souhaite la parole? Poser des questions, faire des remarques. Il y a une personne devant. Attends, une seconde. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'ores et déjà? Non, d'accord. Alors, vas-y.
C'est quoi l'emprunt toxique que vous avez parlé tout à l'heure?
Alors, apparemment, il y a quelqu'un d'autre derrière.
Oui. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement du partenariat public-privé, s'il vous plaît?
Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes déjà qui souhaitent la parole? Alors, au fond, il y a quelqu'un sur la gauche, enfin, sur ma gauche, là-bas.
Juste savoir si ce délabrement de la santé en régime capitaliste était à la même échelle au niveau mondial ou s'il y avait des pays qui faisaient exception, et notamment l'Espagne connaît un régime de gauche depuis quelque temps. Et est-ce que c'est la même catastrophe en Espagne que dans ce pays, par exemple?
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Éventuellement, on pourra redonner, faire un deuxième tour. Je laisse déjà la parole à Zoé.
Je vais prendre dans l'ordre. Sur l'empreinte toxique, les empreintes toxiques, bon, il y en a eu toute une série qui était basée sur des titres financiers, qui étaient basés eux-mêmes sur des titres de spéculation immobilière aux États-Unis. Mais ceux qui ont plus particulièrement marqué là avec l'affaire Dexia, donc dans les années 2010, c'était des crédits dont le taux était variable. C'est-à-dire que les hôpitaux, on leur vendait des crédits pas chers, donc ils ont été incités à s'endetter. Hein, ça a vraiment été une politique délibérée de l'État et des gouvernements de les pousser à s'endetter, de leur donner le droit d'emprunter directement de l'argent. Donc le directeur de l'hôpital, il a été autorisé à emprunter. Et le mécanisme, c'est que tu empruntais à un taux qui paraissait pas très cher, donc intéressant, sauf que dans les clauses du contrat, le taux, il pouvait varier après quelques années. Et il variait selon différents indicateurs économiques. Là, celui dont j'ai parlé, l'indicateur, c'était le taux de change entre l'euro et le franc suisse. Donc effectivement, pendant très longtemps, le taux de change entre l'euro et le franc suisse n'avait pas bougé. Et puis, tout à coup, quand tu as eu la crise de l'euro, la crise de la zone euro, ça a bougé, ça a déclenché des clauses. Et il faut s'imaginer que des taux d'intérêt qui pouvaient être à moins de 5%, 3, 4, 5%, tout à coup, du jour au lendemain, ça pouvait monter à 25, voire 40% de taux d'intérêt. Donc, tu as des hôpitaux comme ça qui ont été du jour au lendemain complètement étranglés. Pas que des hôpitaux, d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup parlé, on avait beaucoup plus parlé d'ailleurs des communes. Il y avait des communes, des collectivités locales, etc. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des monceaux de dettes qu'ils n'arrivaient plus à rembourser. Quoi. Voilà. Sur le partenariat public-privé, le principe rapidement, c'est que... c'était l'exemple d'un hôpital, donc restons sur un hôpital. Au lieu que ça soit l'État ou la Sécu qui finance la construction d'hôpital, donc là c'était un chantier EFAGE, l'exemple que j'ai donné, C'est Eiffage lui-même qui paye le chantier, donc il finance lui-même le chantier, mais en échange, l'hôpital devait lui payer un loyer pendant des années et des années, et c'est une des multiples façons qu'a la bourgeoisie et qu'ont les capitalistes de pomper en fait dans les finances publiques, parce qu'en réalité les loyers, le montant cumulé des loyers, en gros l'hôpital pendant 30 ans il devait payer un loyer énorme à Eiffage qui avait construit l'hôpital. Donc c'est une des méthodes, il y en a plein en fait, hein. Quand on décortique en fait l'argent de l'État ou l'argent de la Sécu, parce que ce sont deux formes de fonds publics, mais en réalité sur le fond c'est pareil, c'est quand même l'argent des impôts des travailleurs ou l'argent des cotisations des travailleurs, mais il y a de multiples façons de détourner cet argent-là vers les caisses des banquiers, vers les caisses des entreprises, j'en ai détaillé un certain nombre, et les partenariats publics-privés, bon, bah, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et alors, sur l'histoire du délabrement de la santé, alors je ne peux pas te répondre précisément sur l'Espagne, parce que je n'ai pas fait une étude exhaustive du système de santé dans chaque pays du monde. Je ne connais pas bien l'Espagne, personnellement. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette évolution de fond, parce que elle ne dépend... C'est pas, vous avez vu, ce n'est pas une politique d'un gouvernement... vous savez, aujourd'hui, la gauche, ils nous disent, c'est l'austérité, c'est les politiques libérales. En réalité, quand on prend un peu de recul, c'est vraiment la conséquence de la crise du système capitaliste, de cette crise qui fait qu'il y a des masses de capitaux qui ne trouvent plus assez de rentabilité en s'investissant dans la production et qui cherchent à aller gratter dans tout un tas de secteurs où ils n'étaient pas auparavant. Et cette évolution-là, qui est faite de privatisation de pans entiers du système de santé et de financiarisation, de dictature là, de ces fonds d'investissement sur la santé, cette évolution de fond, elle est la même dans tous les pays. Et, enfin, dans tous les pays riches, hein, parce que c'est là où il y a quand même de l'argent à aller gratter. Et les histoires des systèmes de santé peuvent être très différentes. C'est vrai qu'en France, vous avez vu un hôpital public qui était issu de la charité religieuse, qui a été largement financé par l'État et qui a été public, très largement public. Il y a d'autres pays où ça s'est fait autrement. Il y a le système de santé dont on entend quand même parler, qui est aux États-Unis, qui lui est encore fait complètement autrement, avec beaucoup plus de boîtes privées au départ. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que partout, l'évolution les restrictions de personnel, des suppressions d'emplois, les attaques contre les travailleurs en général et en particulier dans le système de soins, elles sont pareilles dans tous les pays de la planète, parce que la guerre de classe menée par la bourgeoisie pour s'accaparer une part croissante des richesses, elle est la même de partout. Elle ne dépend pas de la couleur politique du gouvernement. Vous avez vu un petit peu aussi dans l'exposé cet enchaînement de la gauche, de la droite. On ne voit pas du tout la différence. Les uns, ils commencent par mettre en place un forfait hospitalier pour faire payer les soins à l'hôpital qui avant étaient gratuits. Le gouvernement d'après, qui l'augmente, l'autre d'après, il l'augmente, bon voilà. Et les uns suppriment des lits d'hôpitaux, ceux qui arrivent après, ils en resuppriment. Enfin, je veux dire, il y a une continuité parce que derrière, c'est vraiment pas... derrière, c'est lié à ces masses de capitaux qui cherchent à s'immiscer de partout et à trouver le moindre endroit pour faire de l'argent. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres camarades qui souhaitent la parole? Oui, là, il y a une sur ma droite. Et tout au fond, il y aura aussi une intervention au fond. Voilà.
Merci. Déjà, merci pour le topo. Moi, dans mon service, en fait, il y a des espèces de dispositifs dans tous les hôpitaux, je pense, je sais qu'il y en a à Nantes, enfin, qui sont, c'est dans la psychiatrie, et la psychiatrie, leur problème, c'est que les malades, ils occupent des lits, quoi. Et du coup, ils y restent longtemps, on va leur voir toute leur vie, des fois. Et là, dans mon service, c'est une unité qui a été créée il n'y a vraiment pas longtemps, qui est en fait une unité ambulatoire, de psychiatrie, où il s'agit voilà, de traiter de manière ponctuelle sur 3 mois. Donc là, c'est des adolescents. Et on demande vraiment de faire des statistiques sur le nombre d'hospitalisations évitées. Quoi. Enfin, donc, voilà. Et ce même service, il est, disons qu'il est censé être innovant, blablabla, enfin, avec toute la communication qu'il y a avec. Et surtout, il fait appel à du mécénat, comme il y a eu, par exemple, pendant le Covid, avec LVMH, qui estampillait des flacons de gel hydroalcoolique. Enfin, donc, on avait ça là, sur les bureaux, le gel hydroalcoolique LVMH, super. Et donc là, ils appellent, enfin voilà, c'est vraiment appel aux mécènes, dont la Fondation Orange, etc. Et sans surprise, là, donc on va enfin ouvrir les lits dans 2 semaines, lits qui étaient vides par manque de soignants. Et là, sans surprise, bah, ça va tourner de nuit avec des intérimaires. Voilà. Donc, argent ou pas, là, on a soi-disant pas mal d'argent, mais en tout cas, c'est avec des intérimaires quand même, quoi.
Oui, bon, bonsoir. En fait, j'aurais voulu vous demander exactement quel était le rôle d'un point de vue positif pour les capitalistes qui dominent notre société, justement. Quel était le rôle des agences régionales de santé qui ont été déployées à travers le territoire et la déconcentration? Et sinon, j'aurais voulu demander en même temps en quoi ça profite aux grands groupes capitalistes le fait des lois là, qui vont être votées à l'Assemblée nationale par tous ces groupes réunis de grands guignols qui y siègent, et notamment la baisse des remboursements de médicaments, à qui profitent toutes ces mesures. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, pas de regrets, pas d'autres interventions. Bon, moi, je vais laisser la parole à Zoé Chalet pour répondre et conclure peut-être.
Pour commencer sur les nouvelles lois à l'Assemblée, je pense dans l'autre sens. Ouais. Effectivement, en ce moment, il y a un petit peu des bras de fer, il y a beaucoup de communication autour de la préparation du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée. Donc, il y a des annonces, des contre-annonces, des désannonces, enfin, vous voyez, tous les jours, ça bouge. Ceux qui dirigent la Sécu, ceux qui dirigent l'État, ils sont quand même soumis à des pressions contradictoires parce que, évidemment, les industriels du médicament, eux, ils veulent toujours que leurs médicaments soient encore plus remboursés. Ils veulent toujours pomper encore plus d'argent sur les remboursements Sécu. Mais d'un autre côté, il y a l'ensemble du patronat qui veut payer moins de cotisations sociales, qui veut que les exonérations de charges, elles se poursuivent. Là, les exonérations de charges, elles en sont quand même, elles sont les chiffres à 80 milliards par an hein, d'exonération au patronat. Donc, il y a certains hommes politiques qui discutaient qu'il faudrait peut-être les baisser un petit peu. Donc, la droite, elle veut les baisser de 2 milliards. La gauche, elle dit non, on va les baisser de 3 milliards. Enfin, vous voyez, ils discutent sur des clopinettes par rapport à la masse d'argent. Donc, ils avaient annoncé, je crois, des baisses de remboursement de médicaments. Enfin, bon, il y a des mécanismes un peu compliqués où ils s'arrangent avec les industriels. Mais enfin, ceci dit, sur le fond, les industriels de la pharmacie type Sanofi, même si tout à coup le médicament lambda est un tout petit peu moins remboursé, ils récupèrent de toute façon des subventions par un autre bout. Par exemple, Sanofi, ils ont ouvert une nouvelle usine à Neuville-sur-Saône, là, dans le nord de Lyon, en septembre, avec visite de Macron et tout le tralala. L'usine, elle coûtait 500 millions d'euros. Les fonds publics en avaient payé 240 millions. Donc, vous voyez, donc, voilà, il y a des négociations dans tous les sens, mais on va voir ce qu'il en sort. En tout cas, par contre, ce qu'on sait, c'est que sur ce qui est d'augmenter les jours de carence pour les fonctionnaires, baisser les remboursements des arrêts maladie, enfin, toutes les mesures qui sont, par contre, contre les travailleurs, là-dessus, ils sont tous d'accord et il n'y a pas de débat et il n'y a pas de bras de fer entre eux, quoi. Le le rôle des ARS, donc agences régionales de santé, donc qui ont été créées après 2009, en fait, elles sont un petit peu, elles essayent, elles chapeautent un territoire indifféremment, le public et le privé, et elles organisent l'offre de soins. Donc elles doivent autoriser, désautoriser, des ouvertures de lits, des fermetures de lits, et la politique qu'il y a derrière avec cette création-là, c'était vraiment de mettre en concurrence les cliniques privées avec les hôpitaux publics et éventuellement, avec l'objectif de continuer à fermer des lits en faisant la chasse à tout ce qu'ils appellent des doublons, des choses qui pourraient être rationalisées. Donc, au final, c'est les 15 dernières années. En réalité, l'aboutissement de cette politique, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus, enfin que la part des cliniques privées augmente et ils dégagent de plus en plus les actes rentables, ceux qui peuvent rapporter vite, ceux qui peuvent, ceux pour lesquels c'est rapide, c'est programmé, il n'y a pas de complications attendues. Voilà, ils ont de plus en plus dégagé ces trucs-là vers le privé et donc ils organisent cette concurrence. Voilà, c'est le bras armé de l'État, c'est l'organisme de l'État qui organise la répartition des soins entre le public et le privé et donc ils dégagent ce qui est intéressant pour les capitalistes. Et puis quand il s'agit des soins pour les plus pauvres, pour ceux qui ne peuvent pas payer ou les maladies longue durée, ils vont laisser ça à la charge de l'hôpital public. Parce que ça n'intéresse pas les capitalistes des fonds d'investissement privés qui veulent du profit rapide et efficace. Voilà. Et pour terminer sur ton témoignage, là, c'est vrai que c'est intéressant sur l'hôpital psychiatrique, parce que c'est vrai que cette idée de supprimer des lits d'hôpitaux à tout prix, ils utilisent souvent l'argument dans les autres soins du fait que... les malades, ça l'arrange de ne pas rester trop longtemps à l'hôpital, que c'est plus intéressant qu'on peut choper des maladies d'ailleurs à l'hôpital, donc c'est plus intéressant de partir vite, d'être vite rentré chez soi. Il y a des technologies qui permettent d'avoir des techniques moins invasives, où on récupère plus vite, donc ils utilisent cet argument. Mais pour le coup, en psychiatrie, ça ne marche pas du tout, parce que si on a des adolescents, si on a des malades psychiques, ils ont besoin de rester et d'être en contact avec des soignants. Ils ont besoin d'un accompagnement. Mais là aussi, ils suppriment des lits d'hospitalisation. Donc, tout ça, c'est vraiment une politique. Derrière tout ça, comme je disais, le but, c'est de supprimer des postes de soignants, donc d'économiser sur les salaires. Et plus ils économisent sur la masse salariale dans l'hôpital, plus ils peuvent dégager de l'argent pour la multitude d'entreprises, pour les banquiers. Et là, on voit bien que c'est la même politique qui est menée à l'échelle de toute la société, bien plus largement que dans la santé, de baisser la masse de tout ce que les travailleurs y reçoivent en richesse, d'augmenter la part de richesse accaparée par les capitalistes, et en particulier par les capitalistes les plus grands. Alors c'est vrai que dans un secteur comme la santé, il y a un côté encore plus choquant, et puis tout le monde y est confronté, et puis personne ne comprend comment ça se fait que des choses qui étaient encore possibles quelques décennies en arrière, aujourd'hui c'est plus possible, comment ça se fait qu'on peut mourir sur un brancard aux urgences dans un des pays les plus riches de la planète. Mais là, il faut comprendre que ceux qui nous dirigent, que ce soit à la tête de ces fonds d'investissement vautours que je vous ai décrits, que ce soit à la tête de l'État, ils n'en ont rien à faire, ils iront jusqu'au bout, et si on les laisse faire, le système de soins, il va finir par être complètement détruit, avec plus aucune possibilité, en particulier pour les classes populaires, de se soigner. Et c'est bien ça qui fait que nous, on pense que le combat pour une santé meilleure, humaine, accessible à tous, c'est lié au combat pour renverser tout cet ordre capitaliste, pour mettre fin à la dictature de ces banquiers, de ces financiers qui nous mènent vraiment de plus en plus dans ce secteur comme dans tous les autres à la barbarie.
Bon, merci à tous. Un dernier mot pour vous dire que le prochain cercle Léon Trotsky se tiendra le 1er février, samedi 1er février, et que ce sera un sujet autour de la Grande-Bretagne. Voilà. Bonne fin de journée à tous.